Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternés d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, dans laquelle je vous propose de nous intéresser aux Aïnou, ce peuple autochtone du nord du Japon, en compagnie de trois membres d'Upopoi, un musée et parc national Aïnou situé dans la grande île d'Hokkaido, dans le nord de l'archipel japonais. Muraki Miyuki, Ryoma Mogi et Ito Satomi sont tous les trois Aïnou et travaillent à Upopoi, ce musée et parc national créé en 2020 à Shiraoi, dans le sud de l'île d'Hokkaido. Ils étaient venus à Taïwan à la fin du mois de novembre dernier pour participer au festival de musique autochtone Pasiwali à Taïdon, où ils ont donné plusieurs représentations de danse, de musique et d'artisanat traditionnel Aïnou. Cette émission, j'ai voulu me concentrer non pas sur le musée ou sur les activités qui ont été proposées aux festivaliers pour découvrir la culture Aïnou, j'ai plutôt cherché à les interroger sur leur relation avec leur propre culture et avec leur identité et sur leur expérience en tant que membre du peuple Aïnou au Japon, dans un pays qui ne reconnaît leur identité autochtone que depuis 2019. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la concordance de leurs témoignages, puisque leurs histoires familiales racontent toutes une rupture de la transmission de la langue et de la culture, et une identité non pas transmise directement, mais apprise de manière volontaire et proactive, suite à une prise de conscience et une volonté de retrouver et de s'approprier leur propre culture et leur identité. On écoute tout de suite Muraki Miyuki, âgée de 65 ans, une des doyennes du musée.
J'ai commencé à apprendre la culture Aïnou quand j'avais 26 ans. Avant, le mot Aïnou avait une connotation négative au Japon. Donc, je ne voulais pas être Aïnou ou être considéré comme Aïnou. Mais lorsque j'ai compris mon identité Aïnou, je l'ai plus appréciée et j'ai voulu apprendre ma propre culture. Mon père est Aïnou, mais il ne sait pas du tout parler la langue. Mon grand-père savait le parler, mais il est décédé quand j'étais très petite, donc je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre. Plus tard, à Bailauding, au musée de la culture Aïnou, j'ai travaillé en tant que commissaire d'exposition. Le musée est géré par des Aïnous et on peut y apprendre la danse, le chant et d'autres aspects de la culture. Cela nous a aidés à comprendre notre identité et nos racines.
Et c'est aussi le cas d'Ito Satomi et de Ryoma Mogi, qui ont des histoires familiales similaires.
Je travaille plutôt dans le domaine de l'artisanat, dans la couture des kimonos utilisés pour les danses par exemple. Pour moi c'est pareil, c'est au musée que j'ai appris la culture Aïnou. Ma grand-mère était Aïnou, mais je n'ai pas appris la langue ou la culture avec elle.
Je travaille dans le même département que Satomi et je m'occupe principalement de l'artisanat lié aux hommes. Ça comprend le travail du bois et ce qui est lié au canoë. Mon père et ma grand-mère sont Aïnous, mais ils ne m'ont pas transmis la langue ou la culture. Mais comme ça m'intéressait, je suis allé étudier ça à l'université de Sapporo avec pour objectif de devenir commissaire d'exposition.
À l'université, Ryoma Mogi a participé à un programme qui s'appelle Ureshipa Kulubu, ce qui signifie à peu près « apprendre les uns des autres », qui permettait aux étudiants, grâce à des contrats de sponsors avec des entreprises, d'apprendre la culture Aïnou, mais aussi d'organiser des échanges internationaux avec les autres musées de culture autochtone et d'étudier la politique des autres pays en matière d'affaires autochtones. Lors de leur passage à Taïwan, les membres de Upopoi ont montré plusieurs danses et chants Aïnou. Ils ont également fait une démonstration de gambard Ainu et proposé aux festivaliers de s'essayer à ce petit instrument fait de ficelles et de bambous. L'occasion pour eux donc de partager plusieurs aspects de la culture Ainu, une culture où l'animisme accorde une grande importance à la nature et aux animaux, puisque les Ainu sont traditionnellement des chasseurs et des pêcheurs.
De manière générale, les Ainu dansent lors de cérémonies, comme par exemple la cérémonie Riomant, où l'on renvoie l'âme de l'animal. On danse aussi pour la construction d'une nouvelle maison. Et au printemps et en automne, il y a une cérémonie liée à la récolte, pour prier pour la sécurité. Là aussi, on danse tous ensemble. Et nous avons aussi une cérémonie pour appeler les saumons ou les autres poissons, et également pour d'autres événements liés aux saisons. Il y a des danses à ces moments-là. Mais on chante et on danse aussi dans la vie de tous les jours pour s'exprimer. Le chant est improvisé lors de cette cérémonie. C'est aussi le cas des berceuses ou des chansons de travail.
Tata.
Il faut savoir que la langue Ainu est menacée d'extinction et que l'Atlas des langues en danger dans le monde la considère comme étant en situation critique, l'étape qui précède la situation d'extinction. Ce statut de situation critique signifie plus exactement que les plus jeunes locuteurs sont les anciens et les grands-parents et ils ne parlent la langue que partiellement et non régulièrement. On parlera plus en détail du processus historique qui a mené à cette situation. Mais Muraki Miyuki, qui ne parle que quelques mots de Ainu, explique que cette barrière de la langue rend difficile la pratique du chant.
Le chant improvisé s'appelle Yaesama et effectivement, seules les personnes qui parlent la langue Ainu sont capables de faire ça. Pour nous, c'est presque impossible. Mais il y a aussi des chansons avec une mélodie particulièrement jolie ou entraînante ou avec des paroles qui plaisent et qui se sont transmises. Celles-là sont plus faciles à retenir. Nous avons appris ces chansons par cœur pour les spectacles. Mais pour les Yaesama, c'est presque impossible sans la revitalisation.
Lyoma Mogi, comme beaucoup d'Ainu de son âge ou de la génération de ses parents, n'a pas appris la langue Ainu. Il croit que sa grand-mère, qui a caché à sa famille son identité Ainu toute sa vie, a volontairement choisi de ne pas transmettre sa langue et sa culture dans le but de préserver ses enfants d'éventuelles discriminations. Ce phénomène fait que la population Ainu recensée dans les statistiques aujourd'hui est sans doute très sous-estimée, puisque de nombreuses personnes ne savent pas qu'ils ont des parents ou des grands-parents Ainu.
Ma grand-mère faisait de la couture traditionnelle Ainu, mais lorsqu'elle était en vie, nous ne le savions pas. Nous l'avons appris seulement après sa mort, car à son époque, il y avait beaucoup de discrimination envers les Ainu. Et elle pensait peut-être qu'en transmettant la culture Ainu à ses petits-enfants, ils seraient eux aussi discriminés. Mais de toute manière, à cause des discriminations, la transmission ne se faisait plus bien depuis longtemps et la connaissance ou la compréhension qu'elle avait de la culture et de la langue Ainu n'était peut-être pas très approfondie.
Mais Ryoma Mogi a voulu rattraper le temps perdu et a étudié la langue Ainu à l'université, car il n'y a pas de cours d'Ainu dans l'enseignement primaire ou secondaire au Japon.
Comme la culture Ainu m'intéressait, j'ai pris des cours d'Ainu pendant mes 4 années à l'université. Et après, en travaillant, j'ai continué à apprendre. Mais c'est vraiment difficile et c'est très différent de l'anglais. La grammaire est difficile, donc je peux parler un peu, mais il me faut du temps pour réfléchir à la structure de la phrase. Je peux aussi écrire, mais là aussi, il me faut du temps. En réalité, il y a beaucoup de dialectes. Au début, j'ai commencé par apprendre le dialecte qui est parlé à Saru, dans le centre d'Hokkaido. Mais je suis originaire de Shiraoi et j'ai appris ce dialecte par la suite.
Mais je vous propose de nous pencher plus en détail la semaine prochaine sur la menace qui pèse sur la langue et la culture Aïnou au Japon, mais aussi sur les efforts de la communauté Aïnou pour faire reconnaître leur identité et leurs droits dans la loi japonaise. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternés d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, dans laquelle je vous propose de continuer l'émission thématique de la semaine dernière consacrée aux Aïnous, ce peuple autochtone du nord du Japon, principalement à Hokkaido mais aussi dans le nord du Tohoku, et également dans l'extrême-orient de la Russie, notamment dans les îles Kouril et l'île de Sakhalin. Pour parler de la culture et de la langue Aïnou, j'ai interviewé trois membres d'Upopoy, un musée et parc national Aïnou situé dans la grande île d'Hokkaido, dans le nord de l'archipel japonais. Muraki Miyuki, Ryoma Mogi et Ito Satomi sont tous les trois Aïnou et travaillent à Upopoy, un musée créé en 2020 à Shiraoi, dans le sud de l'île d'Hokkaido. Ils étaient venus à Taïwan au mois de novembre pour participer au festival de musique autochtone Pasiwali, où ils ont donné plusieurs représentations de danse, de musique et d'artisanat traditionnel Aïnou. C'était l'occasion de les interroger sur leur relation avec leur propre culture et avec leur identité, et sur leur expérience en tant que membre du peuple Aïnou au Japon, dans un pays qui ne reconnaît leur identité autochtone que depuis 2019. Tous les trois avaient déjà évoqué la semaine dernière leur parcours familial, qui se caractérise par une rupture dans la transmission de la langue et de la culture, et même parfois de l'identité Aïnou. Si vous avez raté le premier épisode, je vous conseille donc d'aller écouter la première émission sur notre site internet. Il faut peut-être rappeler que le peuple Aïnou a une histoire très longue et très complexe, marquée par un important métissage et par une assimilation culturelle par l'ethnie Yamato, majoritaire au Japon, par le biais d'une politique centraliste menée par l'État japonais. Une assimilation qui s'est faite malgré une forte et longue résistance, avec plusieurs guerres et révoltes, comme par exemple en 1268, qui est la plus vieille révolte à avoir été documentée, ou encore la rébellion de Shakushain, un nom que vous entendrez plus tard dans cette émission. Si bien que ce n'est qu'en 1799 et en 1807 que l'est et l'ouest de la grande île d'Hokkaido ont été finalement soumis au contrôle du shogunat. La politique d'assimilation des Aïnou s'est appuyée sur certaines interdictions visant à mettre fin au mode de vie et à l'organisation traditionnelle de la société des Aïnou, avec par exemple l'interdiction de certaines coutumes comme la pratique du tatouage et le port de boucles d'oreilles pour les hommes, ou encore l'interdiction de la pêche au saumon et la restriction du port des armes pour la chasse, activité masculine par excellence. On voit d'ailleurs beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé à Taïwan pour les autochtones, avec également la volonté de faire d'eux des agriculteurs, un modèle économique plus profitable et qui a surtout permis aux autorités de mieux contrôler la population qui a dû déménager vers des zones plus accessibles.
Pendant la période Meiji, le gouvernement japonais a mené une politique d'assimilation. En plus d'interdire aux Aïnous de parler leur langue, de faire des tatouages faciaux pour les femmes et de porter des boucles d'oreilles pour les hommes, la pêche au saumon dans les rivières et la chasse aux biches ont aussi été interdites. Ces interdictions touchaient à la vie même des Aïnous. Et le gouvernement japonais a aussi forcé les Aïnous à faire de l'agriculture, à cultiver des champs comme les Japonais. Ça, c'était il y a 150 ans. Et les enfants sont aussi allés dans des écoles japonaises pour apprendre le japonais. On peut donc parler de situation de colonisation à l'intérieur du pays.
L'autre outil de l'assimilation a été, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, l'éducation, avec l'ouverture en 1877 d'écoles pour les enfants aïnou et l'enseignement de la langue japonaise au détriment de la langue aïnou. Muraki Miyuki, âgé de 65 ans, expliquait la semaine dernière que son père déjà ne parlait pas du tout la langue aïnou et que c'est son grand-père qui la parlait. Mais ce dernier est décédé lorsqu'elle était petite, empêchant ainsi son apprentissage de la langue.
La langue aïnou, à l'origine, se transmet oralement et sans la transmission de la langue, il devient aussi très difficile de transmettre l'histoire, la culture, la manière de penser des aïnous. C'est pourquoi le sauvetage de la langue aïnou est la priorité aujourd'hui. Mais personnellement, je suis totalement incapable de la parler. Je peux apprendre des paroles de chansons par cœur, mais pas parler. Maintenant, on peut dire qu'il n'existe plus de locuteurs natifs de la langue aïnou. On peut dire qu'avec le regain de l'apprentissage, il y a de plus en plus de jeunes locuteurs, alors que les personnes âgées ne savent pas trop le parler.
Pour parler de l'avancement de la cause des aïnous au Japon, il faut évoquer un militant et homme politique aïnou, un certain Shigeru Kayano, qui s'est battu toute sa vie pour promouvoir la culture et la langue aïnou, et surtout pour pousser l'État japonais à reconnaître les aïnous et leurs droits en tant que peuple autochtone. Shigeru Kayano, né en 1936 et décédé en 2006, a été le premier aïnou à entrer à la Diet, le parlement japonais, en tant que membre de la Chambre des conseillers à partir de 1994. Il est à l'origine du musée de la culture aïnou à Biratori, inauguré en 1972, mais a également fait ouvrir 15 écoles de langue pour permettre aux aïnous d'apprendre leur langue. Il est aussi à l'origine de la création en 2001 d'une radio en langue aïnou, la FM Pipaoshi, dirigée par son fils. Une loi pour la protection de la promotion de la culture aïnou a fini par être promulguée en 1997, une loi qui a été remplacée par une autre plus poussée en 2019, qui reconnaît notamment le statut du peuple autochtone des aïnous. Mais Muraki Miyuki explique que la loi se concentre sur l'aspect culturel et est insuffisante sur le plan linguistique.
La politique actuelle du gouvernement japonais envers la minorité aïnou est que tout le monde est égal et doit être traité de la même façon, qu'il soit aïnou ou pas. Si on veut apprendre le aïnou, on peut le faire, qu'on soit aïnou ou pas, mais pas à l'école. Il n'y a pas de cours dispensés dans les écoles lorsqu'il y a des élèves aïnou. C'est l'idée générale. Le gouvernement japonais a une politique de revitalisation de la culture aïnou, mais pas une politique de traitement spécial des autochtones aïnou. Le gouvernement japonais alloue un certain budget pour la langue aïnou, mais le montant est très faible et ne permet pas de mener à bien le travail de revitalisation de la langue. Il faudrait des centres d'études linguistiques qui puissent produire des manuels et des dictionnaires. C'est nécessaire. Et il faut aussi mettre en place un environnement propice à l'apprentissage. Nous devons aussi conseiller le gouvernement sur les contenus. Et pour ce qui est de la revitalisation culturelle, il faut encourager les jeunes à s'intéresser davantage et à apprendre la culture.
Au musée Upopoi à Hokkaido, les Aïnous tentent ainsi de promouvoir leur langue et d'encourager son apprentissage.
Ensuite, j'ai appris le dialecte de Hologetsu, qui est celui parlé à côté de chez moi, à Shiraoi. Pour ce qui est de l'écriture, je peux désormais parler et écrire des articles. À Upopoi, où je travaille, nous préparons des explications en langue aïnou, donc je travaille sur ça en ce moment.
Dans le musée Upopoi, la première langue dans les panneaux explicatifs est le aïnou, suivi du japonais, de l'anglais, du mandarin et du coréen. Mais le nombre de personnes qui apprennent la langue aïnou reste très faible. Nous souhaitons désormais que les explications du guide audio puissent aussi être en aïnou, et c'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment.
La rupture dans la transmission de la langue est due non seulement aux politiques éducatives menées par l'État japonais dès le 19e siècle, mais aussi aux discriminations dont ont longtemps été victimes les aïnous, dissuadant les parents d'enseigner leur langue à leurs enfants, de peur que ces derniers ne soient eux aussi discriminés. mais Ryoga Mogi et Ito, qui ont tous les deux dans la trentaine et dans la quarantaine, expliquent que leur génération a moins souffert des discriminations que leurs aînés et que la situation s'est améliorée au cours des dernières décennies.
Les gens de ma génération, dans la quarantaine, n'ont pas vraiment subi de discrimination. Mais cela dépend aussi sans doute de la région. Chez moi, à Shiraoi, il y a deux écoles. Dans la mienne, ça allait, mais dans l'autre, c'était peut-être différent.
Il y a une seule fois où je me suis senti discriminé. C'est quand j'étais à l'école. J'ai toujours affiché le fait que j'étais Aïnou. Lorsque mon école primaire a fusionné avec une autre école, trois enfants de cette autre école se sont moqués de moi et m'ont poussé, comme ça. Mais je ne me suis pas laissé faire, et je les ai aussi poussés. Après, ils m'ont laissé tranquille. C'est la seule occurrence dont je me souviens.
Muraki Miyuki, âgé de 65 ans, a une expérience assez différente.
Beaucoup de gens ne voulaient pas être Aïnou à cause des discriminations. Et ces discriminations existent encore aujourd'hui. J'ai 65 ans et quand j'étais petite, j'ai été insultée parce que j'étais Aïnou. Et c'est aussi ce qui fait que je me suis identifiée comme Aïnou. C'est donc une identification qui est née de quelque chose de négatif. Et lorsqu'à la maison, on recevait une lettre de l'association des Aïnous, on craignait que les voisins apprennent qu'on était Aïnou. Les membres de l'association des Aïnous faisaient aussi attention lorsqu'ils réservaient des chambres d'hôtel pour des événements, par exemple. Et à l'école, parfois, les enfants Aïnous étaient associés à Shakushain et harcelés pour ça avec parfois des jets de pierre. Pour ce qui est des discriminations, cela peut dépendre des sentiments de chacun, mais aussi de l'environnement.
La loi japonaise requiert que les manuels d'histoire géographique comprennent au moins deux pages sur la culture Aïnou. Ainsi, malgré l'amélioration de leur sort, les préjugés restent tenaces, notamment en raison du manque d'éducation et d'enseignement de la culture et de l'histoire des Aïnous dans les écoles japonaises.
Il y a certains stéréotypes associés aux Aïnous, comme par exemple le fait d'avoir des cheveux, des poils plus longs ou d'avoir les traits du visage plus prononcés. Certaines personnes vont dire « J'ai entendu que les Aïnous étaient plus poilus. Est-ce que je peux voir tes jambes ?» Certaines personnes réagissent comme ça. Ou bien d'autres vont dire « Oh, tu es Aïnou, comment ça se fait que tu parles si bien japonais ?» Mais c'est à cause de l'histoire, de la politique d'assimilation que les Aïnous ont perdu leur langue. Et ça, les gens qui disent ce genre de choses n'en ont absolument pas conscience. Donc lorsqu'elles entendent des choses comme ça, certaines personnes Aïnous ne se sentent pas à l'aise ou bien se sentent irritées. Et ce genre de choses arrive encore aujourd'hui. Il existe maintenant la loi de 2019 qui interdit les discriminations envers les Aïnous et qui affirme leur droit à la dignité. Et cette loi existe parce que ce n'est justement pas encore le cas.
Une résolution de 2008, votée par le Parlement japonais, a reconnu pour la première fois que les Aïnous étaient un peuple indigène avec sa propre langue, religion et culture. La loi de 2019 est venue inscrire ce statut de peuple autochtone dans la législation, même si des inégalités de revenus et d'éducation persistent encore aujourd'hui. Ainsi s'achève cette émission spéciale consacrée au peuple Aïnou du Japon, mais je vous invite, si vous passez à Hokkaido lors d'un voyage dans l'archipel japonais, à vous rendre à Shiraoi pour visiter le musée et parc national Aïnou ouvert en 2020, qui est géré par des membres de la communauté Aïnou pour promouvoir leur culture, leur langue et leur identité. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.